Laudetur Jesus Christus.
La fragilité n'est pas un obstacle pour vivre l'Évangile. C'est le cœur du message du pape en vue de la prochaine journée internationale des personnes handicapées. C'est la une de ce journal. Les îles Salomon s'enflamment, de violentes émeutes ébranlent la capitale depuis 2 jours. Il semble que la politique philo-chinoise du Premier ministre soit en cause. Plus de détails dans un instant. Dans ce journal également, un reportage dans les rues de Kaboul, la capitale afghane qui, comme le reste du pays, vit une crise humanitaire effrayante. Et puis c'est le choc après le naufrage d'une embarcation de personnes migrantes au large de Calais hier. 31 morts, une tragédie malheureusement prévisible.
Radio Vatican, le journal. Manuela Affigi.
Bonjour à tous. La fragilité n'est pas un obstacle pour vivre l'Évangile. C'est donc ce que rappelle le pape en vue de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre prochain. Dans un message publié aujourd'hui, François les encourage à cultiver l'amitié avec Jésus pour vivre leurs conditions de manière réconciliée. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
Le pape le souligne au début de ce message. Nous, chrétiens, avons reçu un don, l'accès au cœur de Jésus et l'amitié avec lui. L'amitié confiante et personnelle avec le Christ est une vocation, indique François, afin de témoigner que sa propre fragilité n'est pas un obstacle pour vivre et communiquer l'Évangile. L'Église vous aime, écrit aussi le pape aux personnes handicapées. Elle a besoin de chacun d'entre vous pour accomplir sa mission au service de l'Évangile. Le Saint-Père insiste, l'Église est votre maison. Il regrette toutefois que certaines d'entre elles se soient déjà vues refuser l'accès au sacrement. Le magistère est très clair à ce sujet, rappelle-t-il. Personne ne peut refuser les sacrements aux personnes handicapées. L'évêque de Rome dénonce plus largement les discriminations persistantes à l'égard des handicapés. Il liste aussi les répercussions douloureuses de la pandémie de Covid-19. L'Église est aux côtés de ceux d'entre vous qui luttent encore contre le coronavirus, assure le pape, qui parle de la nécessité de prendre soin de chacun sans que le handicap soit un obstacle à l'accès aux meilleurs soins disponibles. Enfin, le souverain pontife invite les personnes handicapées à la sainteté et à la prière. Personne n'est si fragile qu'il ne puisse prier, adorer le Seigneur, rendre gloire à son nom et intercéder pour le salut du monde, conclut François.
Adélaïde Patrignani. Le pape François qui a reçu ce matin le premier ministre du Liban, Najib Mikati. Au cours de cet entretien, la situation du pays du Cèdre a longuement été évoquée, notamment la crise politique, les difficultés socio-économiques de la population. En souhaitant que la justice, les réformes nécessaires et le soutien de la communauté internationale puissent aider le Liban à se relever, c'est ce qu'indique le communiqué du bureau de presse du Saint-Siège. Les tensions sino-américaines autour du statut de Taïwan ont des répercussions dans toute la région et jusqu'au milieu du Pacifique. Ainsi, les îles Salomon sont secouées depuis plusieurs jours par des émeutes, car si la population de l'archipel a des liens forts avec Taïwan, le gouvernement local n'a cessé, lui, de resserrer ses liens avec Pékin. Les explications d'Olivier Bonnel.
Depuis 2019, la tension est montée d'un cran sur cet archipel situé à l'est de l'Indonésie. Les autorités locales avaient en effet décidé de transférer leur reconnaissance diplomatique de Taïwan à la Chine, alors que les liens avec l'île revendiquée par Pékin étaient forts, remontant à 1983, 5 ans après que les Salomon aient quitté le giron de la Grande-Bretagne. Sur place, le ressentiment des habitants est grand et la colère a explosé. Hier, des centaines de personnes ont manifesté pour réclamer la démission du Premier ministre. La foule a tenté de prendre d'assaut le Parlement. Un poste de police et des commerces ont été incendiés et pillés, notamment dans le quartier de Chinatown, à Honiara, la capitale de l'archipel. Un couvre-feu a été instauré. L'Australie, autre grand voisin régional et rival de la Chine, a annoncé le déploiement ce matin d'une force de maintien de la paix sur place. Pékin n'a pas tardé non plus à réagir à cette bouffée de violence, faisant part de sa grande préoccupation pour ses intérêts aux Salomon. Déjà en 2006, des émeutes avaient éclaté dans un quartier chinois de la capitale, suite à des rumeurs selon lesquelles des entreprises proche de Pékin avait truqué le vote aux élections législatives.
Olivier Bonnel. La pression des organisations de défense des droits de l'homme n'aura pas suffi. Le général Ahmed Nasser Al-Raissi a donc été élu ce matin président d'Interpol, l'agence internationale de coopération policière, une fonction essentiellement honorifique qu'il occupera durant 4 ans. Le chef des forces de sécurité aux Émirats arabes unis est toutefois sous le coup de plaintes pour torture, d'où l'indignation des ONG pour qui cette élection porte atteinte à la crédibilité même de l'organisation. Nous vous en parlons depuis quelques jours, notamment après la visite du directeur des opérations de la Croix-Rouge sur place. L'Afghanistan connaît une crise humanitaire désastreuse, l'une des pires au monde. Les fonds de la Banque centrale du pays sont gelés, les hôpitaux n'arrivent pas à fonctionner et des millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Un tableau sombre que nous confirme notre correspondante sur place, Inès Gilles. Voici son reportage à Kaboul.
Devant une boulangerie, une femme en burqa est assise sur le trottoir. Elle tend la main au client de passage pour récupérer un bout de pain.
On est pauvres, on n'a rien. Chez moi, je n'ai pas de farine, d'huile et de riz. La situation s'est empirée.
Depuis 3 mois, les sanctions internationales imposées après l'arrivée des talibans au pouvoir ont plongé le pays dans une crise gravissime. À l'hôpital Atatürk de Kaboul, des petits corps maigres sont installés dans des lits à baldaquin. Le ventre d'Ali, 7 mois, est gonflé. Il a été pris en charge il y a une semaine dans un état de malnutrition extrême. Ils sont une douzaine de bébés dans ce service spécialisé dans la malnutrition. La situation est critique selon Atifa Chapour qui travaille comme médecin.
Le nombre de patients a augmenté. Nous souffrons de pénurie de lait ou de médicaments à l'hôpital et la plupart des familles n'ont pas les moyens de les acheter.
Aujourd'hui, 60% des Afghans, soit 24 millions de personnes, vivent dans l'insécurité alimentaire. Selon l'ONU, c'est une des pires crises humanitaires au monde.
Voilà, c'était le reportage de notre correspondante à Kaboul, Inès Gilles. L'information est donnée par un journal israélien en ligne. Les autorités de Tel Aviv devraient accorder des permis de sortie à 500 chrétiens de Gaza afin qu'ils puissent se rendre à Bethléem et à Jérusalem lors des fêtes de Noël. Cette pratique qui intervient chaque année, aussi pour Pâques, était gelée depuis 2 ans en raison de la pandémie. Et puis d'autres restrictions plus dures avaient en outre été décidées après la guerre de mai dernier. Jour crucial pour l'ONG russe Mémorial, elle comparaît devant la Cour suprême à Moscou car elle est menacée de liquidation en vertu de la loi sur les agents de l'étranger. Cette ONG est très emblématique. Fondée en 1989, elle a accompli un travail important de documentation sur la répression stalinienne avant d'étendre son action contre les violations des droits de l'homme. Au moins 31 personnes migrantes sont décédées hier dans le naufrage d'une embarcation sur le canal de la Manche. On ne sait pas si le bateau a chaviré ou s'il était crevé, mais ce drame est sans doute le pire accident de ce type sur cette voie migratoire. William Feuillard est coordinateur au sein de l'association L'Auberge des Migrants qui œuvre depuis 13 ans à Calais et dans ses environs. Il réagit à ce drame et il revient sur le sentiment des habitants.
C'est vraiment tragique qu'il faille un drame de cette ampleur pour qu'on s'intéresse à la situation sur le littoral nord où se passe en fait aujourd'hui une véritable crise humanitaire sur le sol français. Et face à ça, on a des politiciens qui ne veulent toujours pas se remettre en question face à une situation qui n'est pas nouvelle. Ça fait des années en fait qu'on alerte sur la dangerosité de la situation à la frontière. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? C'est Macron qui dit que voilà, tout sera mis en œuvre pour retrouver et condamner les personnes responsables du naufrage. Les personnes de la ville, elles en ont marre de voir que la situation ne change pas. Que, encore une fois, la problématique migratoire à Calais s'inscrit dans le temps long. Ça fait plus de 30 ans qu'ils voient qu'aucune mesure n'est faite. Tout l'argent qui est donné dans la ville de Calais est pour la construction de murs, de barbelés, de barricades. Les Calaisiens voient que ça ne change pas et qu'en fait, ils sont instrumentalisés et que toute la problématique de Calais, elle n'évolue plus. Les gens sont ici pour passer en Angleterre. Si les politiques actuelles continuent leur stratégie d'harcèlement et de militarisation des frontières, ils vont prendre encore plus de risques. En fait, c'est ça.
Des propos recueillis par Claire Riobé. Les chiffres le confirment chaque jour un peu plus. L'Europe est redevenue l'épicentre de la pandémie de Covid. Un pays le symbolise en particulier, c'est l'Allemagne qui compte désormais 100 000 décès depuis le début de la crise en mars 2020. Le nouveau gouvernement admet que la situation est sérieuse et promet de tout faire pour affronter la situation. L'annonce a été faite à la mi-journée. La rencontre prévue le 9 décembre entre le pape François et les membres de la SIAZ a été reportée. L'information vient du président de la commission, Jean-Marc Sauvé, qui n'a pas fourni plus de précisions. Et avant de conclure, le pape François a autorisé ce matin la publication de plusieurs décrets de la Congrégation pour les causes des saints. Et l'un d'entre eux reconnaît le martyr de 5 prêtres français assassinés par la Commune de Paris, tous exécutés donc en haine de la foi le 26 mai 1871. Leur béatification devrait donc être célébrée à Paris dans les prochains mois. Et puis sont également reconnues les vertus héroïques de Don Tonino Bello, un évêque italien décédé en 1993, qui reste très populaire grâce à ses écrits spirituels destinés notamment à la jeunesse. Tous les détails sur vaticannews.va. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vaticane et internationale à 18h ce soir. Vous serez en compagnie de Delphine Allaire. Belle journée à tous.